Place publique.
La place de l'Esplanade à Bienne aura cet été des allures de ranch texan avec la construction d'un imposant terrain d'entraînement pour chevaux. Ce paddock est en réalité une œuvre d'art éphémère, une œuvre d'art qui suscite des critiques. Trop cher, trop élitiste. La municipalité va-t-elle trop loin en matière d'art contemporain dans l'espace public à l'heure où chaque franc compte? On en parle dans un instant avec la directrice des finances de la ville de Bienne, la conseillère municipale Sylvia Steidley. Après 18h30, nous serons en direct du salon de l'immobilier neuchâtelois. Aujourd'hui s'y tenait la journée de l'architecture et de l'urbanisme. L'occasion de parler avec notre invité, l'architecte urbaniste communal de la ville de Neuchâtel, Olivier Neuhaus, du réaménagement prochain des rives du lac, un lieu toujours plus prisé par les habitants qui rêvent de loisirs. Et enfin, Griffe fête ses 5 ans. Depuis, la chaîne musicale basée à Delémont séduit chaque jour plus de 50 000 auditeurs. La recette du succès tient surtout en une programmation d'artistes savamment étudiée. 9 minutes sur 10 du programme sont dédiées à la musique. Découverte de 5 morceaux tout à l'heure qui racontent Griffe. Ce sera en dernière partie d'émission avec le programmateur Fabrice Eby.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. C'est une œuvre d'art qui fait déjà beaucoup parler d'elle à Bienne, alors qu'elle n'est pas encore installée. Un collectif d'artistes va construire cet été une piste d'entraînement pour chevaux, un paddock. L'œuvre intitulée Texas est prévue sur l'esplanade située devant le Palais des Congrès au centre-ville. Mais la perspective n'enchante pas tout le monde. Des riverains ont fait opposition pour des raisons de sécurité et d'accessibilité. Et au niveau politique, l'élu socialiste Mohamed Hamdaoui critique un projet qu'il juge discriminatoire. Il craint aussi que la démarche ne soit pas comprise par la population, des habitants qui pourraient en avoir ras-le-bol que les autorités financent des œuvres jugées trop élitistes. La ville de Bienne en fait-elle trop en matière d'art contemporain à ciel ouvert? 2 ans après le festival de la nudité qui avait aussi fait polémique, est-ce qu'il ne faut pas davantage privilégier des projets populaires à l'heure où les finances publiques sont sous pression? On en parle avec vous, Sylvia Steidley, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère municipale en charge des finances à Bienne. Alors avant de parler du fond du problème, une discussion passionnante, un mot sur les chances de voir ce paddock se réaliser cet été. Alors il y a une opposition qui est en traitement à la préfecture, des élus qui s'interrogent. Alors ce soir, est-ce que vous êtes malgré tout confiante?
Oui, bien sûr que je suis confiante. C'est normal qu'une telle installation suscite la discussion, peut-être aussi des oppositions, mais je pense que ces oppositions vont être levées puisqu'il s'agit ici vraiment d'une œuvre d'art et que les oppositions actuellement déposées ne sont pas, ne critiquent pas, finalement ne sont pas les mêmes que si on construit des escaliers ou bien un trottoir qui pourrait être dangereux. Ça, c'est l'opposition par rapport aux riverains. Je pense que c'est une œuvre d'art et j'ai de bons espoirs que ça soit réalisé cet été.
Et vous direz au Conseil de Ville aussi prochainement qu'il n'y a pas eu de vice de forme dans l'attribution de ce projet. Mais à l'heure où les finances publiques, on l'a dit, sont sous pression, est-ce que c'est politiquement, selon vous, opportun de mettre 80 000 francs dans une œuvre d'art monumentale au centre-ville, pas forcément accessible à tous, on vient de le dire, et donc inutile pour certains?
Alors peut-être inutile pour certains, c'est clair. En tant que directrice des finances, je suis responsable effectivement des finances, mais je ne suis pas la gardienne non plus de la morale, des valeurs. Et il serait tout à fait faux et même dangereux que la directrice des finances, finalement, doive juger des œuvres. Je me réfère à des régimes peut-être plus totalitaires dans d'autres pays qui interviennent auprès des artistes, interdisent sans pour autant être dans la même réflexion que le Parti communiste chinois, par exemple. Je dirais que tout de même, il y a des dérives possibles aussi dans notre pays. Si tout d'un coup, on commence à enlever des subventions à des gens qui font des choses un petit peu plus critiques ou un petit peu plus... disons inaccessible, ça serait une dérive, ou bien si on commence à chicaner pour l'organisation de certaines manifestations, ce serait à mon avis une dérive qui serait très préoccupante.
Alors vous assumez ce choix qui est indirectement celui de la ville. L'art pour vous, quelque part, doit provoquer, susciter des réactions?
Alors personnellement, je trouve que l'art, c'est autre chose que seulement le beau, l'utile, la morale ou l'esthétique. Je pense que l'art doit aussi questionner sur notre société. Et en l'occurrence, si vous me permettez, vraiment cette œuvre qui va être installée, c'est un thème finalement très présent à Bienne, puisqu'il met en cause, ou bien disons, il questionne la privatisation de l'espace public. À chaque année, quand nous organisons des manifestations, par exemple au bord du lac de Bienne, aux rives de lac du Bienne, on a des tournois, des organisations qui font des concerts, du cirque payant. Nous avons à chaque fois des collectifs comme Bienne Vivante qui s'opposent, qui disent finalement cet espace, il est public, il est ouvert à tous. Et c'est finalement le clin d'œil. Je pense que ce n'est pas très élitaire. C'est une question finalement accessible et sur laquelle chaque citoyen, citoyenne peut se poser la question, s'interroger. Est-ce que l'espace public doit être fermé ou ouvert? Cette installation, c'est le Texas, c'est la colonisation des États-Unis avec le dépôt de barrières qui marque des frontières. Et finalement, je pense que c'est un thème assez simple sur lequel on peut tous réfléchir.
Alors vous en faites la preuve, vous nous donnez l'explication de texte. Sylvia Steidley, quand même, au niveau financier, encore une fois, les finances ne sont pas au beau fixe. Vous-même qui êtes la gardienne de la trésorerie, est-ce que c'est vraiment un bon signal d'allouer des dizaines de milliers de francs à des œuvres d'art qui doivent être expliquées pour être comprises, qui ne sont pas forcément accessibles à tous?
Alors, il faut préciser que là, c'est dans le cadre de l'art dans le bâtiment que ce projet a été financé. Il fait partie de la construction, finalement, du parking qui, lui, a coûté 28 millions, si vous me permettez de donner quelques chiffres quand même. 28 millions pour le parking qui n'a pas suscité de grandes discussions, qui est passé assez facilement devant le peuple. Pour pouvoir créer ce parking, réaliser ce parking, nous avons dû assainir un sol qui était pollué, nettement pollué, puisque nous avons payé pour cela 20 millions. Et pour tout l'aménagement de la place publique, ça a coûté à la ville de Bienne 15 millions. Je fais très rapidement le calcul, 63 millions. Par rapport à ça, on a 80 000 francs, soit 0,1% de cette somme qui va être allouée pour une œuvre artistique. Alors, la question, je la redonne finalement quelque part et j'invite tout le monde à se poser la question. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut? Pourquoi toujours la culture crée cette émotion? Est-ce que pourquoi ne se pose-t-on pas la question? Est-ce que le parking, qui n'est pas non plus accessible à tous, puisque tout le monde n'a pas une voiture, est-ce que ce n'est pas ça les vraies questions de société? Est-ce que c'est à chaque fois les 80 000 francs, 100 000 francs qui sont alloués à une œuvre artistique éphémère qui est appelée aussi à soutenir des artistes, qui doit être vraiment faire couler l'encre et non pas finalement les installations qui coûtent réellement de l'argent. Je redonne la question finalement.
Eh bien, on va tenter d'y répondre. C'est peut-être parce que cette œuvre d'art est éphémère, au contraire d'un parking qui permet aux voitures de se planquer et puis de moins nuire à l'espace public. Il y a une fonction d'utilité. Est-ce que quand on investit de l'argent dans une œuvre, au moins qu'elle dure, qu'elle soit permanente?
C'était une des conditions sine qua non, c'est-à-dire que cet espace va être construit à un moment donné, d'ici 5-10 ans. Et donc, un peu comme l'Expo 02, cette œuvre, dès le départ, on le savait, c'est une installation, elle sera réalisée maintenant pour les 5-10 prochaines années. Et elle sera ensuite appelée à disparaître. Je pense que ici, ce qui rend finalement l'émotion plus importante, c'est qu'elle est très très importante dans sa dimension. Elle est assez grande puisque l'espace est assez grand et elle est aussi très très visible puisqu'assez au centre, placée au centre de la ville. Nous avons d'autres parkings finalement à Bienne, le parking de la gare, le parking de la vieille ville, où il y a aussi des œuvres qui ont coûté autant. Ces œuvres n'ont jamais fait parler d'elles parce que je pense que tout simplement les gens ne les ont jamais vues, n'y ont pas fait attention. Et ici on la voit et ça fait bien entendu, ça crée le débat.
Et c'est pas la première fois, hein. Bienne avait créé le débat aussi il y a 2 ans, avec ce festival de la nudité, aussi une manifestation éphémère, même bien plus éphémère que ce paddock. C'est une marque de fabrique, une signature de la municipalité de Bienne, de savoir faire parler d'elle avec de l'art, pour faire venir, qui, sait-on jamais, des touristes pour cette raison.
Ah, j'espère que les artistes vont vous entendre, puisque je pense que là, la ville de Bienne est encore bien trop prude par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir, que ce soit à Berlin, à Belgrade ou bien à Venise. Ou à Paris, exactement. Et donc, ce sont des choses qui créent finalement une discussion. Il y a des fois aussi des dénonciations de la guerre, de la pauvreté. Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel, et je pense que Bienne, finalement, que, j'espère que les artistes entendront l'appel ce soir et qu'ils s'intéresseront encore plus à Bienne dans le futur. C'est vraiment une chance qu'une ville puisse accueillir ce type d'artistes très important.
On sent que
d'ailleurs, nous l'aurons aussi l'année prochaine avec Thomas Ischorn qui viendra faire une installation également à Bienne.
On se réjouit d'en savoir plus, Sylvia Steidley. On sent que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez beau être ministre, on va dire directrice des finances, vous êtes aussi historienne de l'art, vous avez étudié l'histoire de l'art, et dans votre bureau, paraît-il que les œuvres, on trouve des œuvres d'art aussi qui disent cet attachement que vous avez avec cette question.
Alors personnellement, c'est vrai que j'ai étudié l'histoire de l'art, je suis pas historienne de l'art, je suis politologue, mais j'ai effectivement choisi pour dans mon bureau des œuvres d'un artiste biennois, Thomas Antal, qui ont aussi fait parler, puisque on n'attend pas que un artiste qui vit dans un squat, qui met en scène des squats, se retrouve dans le bureau d'une directrice des finances qui par ailleurs devra peut-être un jour être appelée à vider ses squats, puisque les immeubles sont aussi de la responsabilité. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut laisser aussi l'espace à la créativité, il faut aussi laisser l'espace aux artistes, toujours dans l'idée de l'éphémère. Quand on a une installation qu'on achète, une fabrique, des anciens stades, comme c'est le cas à Bienne, eh bien, avant qu'ils soient démolis, il y a un moment donné où on peut les remettre également à des intéressés, des artistes,
favoriser
des gens
les friches
de la culture.
Et la création.
Absolument, absolument, et plus cet espace est éphémère et plus rapidement et plus grand est l'engouement pour faire quelque chose à certains endroits.
Une politique culturelle assumée, y compris par la directrice des finances de la ville de Bienne, Sylvia Steidley. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions dans Place Publique.
Merci.
Et bonne soirée, à bientôt.
Au revoir.
Place Publique.
15 ans après Expo 02, les Neuchâtelois attendent toujours la création d'un nouveau parc urbain au bord du lac. Leur patience devrait être récompensée d'ici 3 ans avec le projet de réaménagement des Jeunes Rives, imaginé par la ville de Neuchâtel et ses habitants. Le projet intitulé Ring, anneau en français, prévoit divers aménagements pour favoriser les loisirs et la promenade. À l'heure où les villes s'agrandissent et se densifient, l'importance des parcs urbains comme celui-ci devient cruciale, d'autant plus au bord d'un lac. Alors pour en parler, on reçoit en direct de notre stand RTN au Salon de l'Immobilier Neuchâtelois l'architecte urbaniste communal de la ville de Neuchâtel, Olivier Neuhaus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez participé aujourd'hui à la journée de l'architecture et de l'urbanisme qui a réuni des experts suisses et internationaux de la branche à Neuchâtel. Et justement, il était question tout à l'heure des rives du lac, un endroit plus prisé que jamais, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Alors effectivement, les habitants avaient souvent peur de l'eau, qui était les inondations, les maladies, etc. Donc il fallait se protéger de l'eau, du lac, du Seillon, des rivières. Et dans ce sens-là, les villes ont souvent tourné le dos au lac de manière à se protéger. Parce qu'il faut dire qu'à Neuchâtel, par exemple, toutes les rives ont été gagnées sur les lacs au cours des siècles, et que c'est seulement à partir du 18e, 19e siècle qu'on a commencé à gagner des quartiers, les beaux-arts, etc. Et puis, plus récemment, à partir des années 60, les Jeunes Rives.
Et ça veut dire que notre rapport à l'eau a changé, on en avait peur. Maintenant, on veut être près de l'eau, on veut en profiter.
Oui, maintenant, c'est clair qu'on a envie de pouvoir en profiter, de jouer, de courir, de faire du sport, de la culture, Donc les habitants s'approprient beaucoup plus ces rives qu'auparavant.
Et l'aménagement des rives d'un lac, hein, comme à Neuchâtel, on se rend compte que c'est pas si facile qu'il n'y paraît. Il suffit pour s'en convaincre de voir le temps qu'il a fallu pour mettre au point un projet après Expo 02, 18 ans. Pour quelles raisons, selon vous ?
Alors, c'est pas tout à fait exact, puisque en 2003, on a présenté un projet qui, malheureusement, a été soumis à référendum populaire et qui a été refusé par la majorité de la population, par 61% des citoyens. Et ensuite, nous avons remis l'ouvrage sur le métier. Il y a eu le concours Repan pour jeunes architectes et le concours Ring qui en est sorti. Ensuite, en 2013, il y a eu un nouveau référendum, cette fois sur la place Numadro. Donc, un peu un séisme pour les autorités de cette ville. Et il a fallu retrouver la manière de discuter avec les habitants, avec les citoyens, avec les lobbies, etc.
Ça veut dire que
les rives et ça passait par des démarches participatives, centre et rive, centre et gare. Et maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'après des études complémentaires concernant les sous-sols et l'optimisation des coûts, le conseil communal a décidé de soumettre une demande de crédit pour l'étude du projet cet été. Au conseil général.
Le projet avance, ça, on n'en doute pas, hein. Je ne mettais pas en cause les autorités, mais le processus pour arriver au final à un projet qui soit bâti, construit, prend du temps. Vous venez de nous en faire la démonstration. Ça veut dire que des lieux autrefois disposés vers le lac pourraient changer d'affectation, hein. On le voit notamment avec le hangar des trams ou des bus qui se trouve précisément au bord du lac et qui aujourd'hui ne correspond peut-être plus à ce qu'on imagine comme planification, aménagement au bord de ce lac.
Alors effectivement, auparavant, on installait des dépôts de transport public en limite de la ville, du centre-ville d'alors. Ensuite, il y a eu les steppes, hein, qui sont encore à proximité de la ville.
Station d'épuration.
Oui, des eaux usées. Et puis maintenant, on essaye de sortir ces équipements de plus en plus à l'extérieur des villes, de manière à pouvoir réutiliser ces rives pour d'autres affectations liées à la culture, au congrès, au sport, aux loisirs, etc., aux activités, voire au logement.
Ça veut dire que la ville, bah bien sûr, elle grandit, même si elle est entre une montagne et un lac, elle doit croître, et ça, c'est pas forcément une chose aisée, et du coup, bah, y a plein d'aménagements à faire, de changements à imaginer.
Alors effectivement, on parle de densification des villes, il en était question beaucoup aujourd'hui dans Jaune, c'est-à-dire la journée d'architecture et d'urbanisme à Neuchâtel, dans le cadre du salon de l'immobilier. On voit qu'il y a une recherche de densification des villes, mais pour pouvoir densifier les villes, il faut en parallèle ménager des espaces publics de qualité, de manière à ce que les citoyens puissent se retrouver et avoir l'espace nécessaire pour vivre et avoir une qualité de vie, pas qui diminue, mais au contraire qui s'améliore.
Et quand, qui dit densification dit aussi intérêts divers et variés pour ces endroits qui valent de l'or. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu une démarche participative pour les jeunes rives, il a fallu conjuguer des intérêts divergents.
Absolument, mais on a vu que dans la démarche participative Centre et Rives, la plupart des habitants et des gens qui ont participé à l'exposition et aux sondages qui ont été effectués étaient très favorables aux aménagements dans leur ensemble, avec des chiffres de 80-90% favorables à l'avant-projet présenté. Et maintenant, nous travaillons précisément en tenant compte des résultats de cette démarche participative pour préparer la suite. Cette demande de crédit d'étude de projet est en vue d'un crédit de réalisation en 2019. Donc 2019, ça peut paraître loin, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut faire un projet définitif, il faut chercher les financements publics et privés. Et ce travail va se faire ces prochaines années.
Il y a des zones qui sont plus problématiques, hein. Les Jeunes Rives, vous l'avez dit, il y a un accord de la population autour de ce projet, mais il y a des parties en bordure de lac qui ne sont pas forcément accessibles. Il y a d'ailleurs une initiative, hein, au niveau cantonal qui a été lancée pour régler ce problème. Du côté de la ville de Neuchâtel, quel diagnostic vous posez, vous l'urbaniste, sur l'accessibilité des rives du lac de Neuchâtel ?
Alors, bien sûr, il faut que le lac puisse être accessible aux citoyens, aux promeneurs au maximum. Et d'ailleurs, le plan directeur cantonal qui a été présenté ce matin aussi prévoit justement une meilleure accessibilité aux rives. Donc ça fait partie des objectifs du canton, de la communauté urbaine du littoral et de la ville de Neuchâtel.
Donc ça veut dire qu'à Neuchâtel, il n'y a pas vraiment d'embûches, d'entraves. On pense notamment à la piscine du Nid du Croc où il faut payer pour aller au bord du lac. Est-ce que ça, c'est des endroits névralgiques qui pourraient évoluer ?
Alors, bien sûr, ça pourrait évoluer, mais disons, il faut imaginer qu'il y a des gens qui se baignent, qui veulent avoir une certaine intimité pour dans ce secteur-là, des piscines notamment. Donc c'est clair, c'est des choses qui doivent être réglées au cas par cas, et c'est assez difficile comme ça de donner des solutions. Et il y a aussi ailleurs, parfois, les propriétés privées qui font qu'on doit les contourner, ou il y a quand même un droit de marche-pied qui permet de passer en principe devant.
Si on se projette un peu dans l'avenir, est-ce qu'on peut imaginer un grand projet qui va changer le visage du bord du lac de la ville de Neuchâtel ? Vous l'avez rappelé dans l'histoire, il y a eu la correction des eaux du Jura qui fait qu'on a pu gagner de précieux mètres carrés, des surfaces précieuses pour construire de nouveaux quartiers. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, parce que la ville se densifie, on doive à nouveau empiéter sur le lac ?
Ah, c'est assez difficile techniquement parce qu'on arrive au bord d'une espèce de falaise. Et puis d'autre part, on est beaucoup plus attaché à la protection des biens naturels, des rives, etc., qu'il y a quelques dizaines d'années. Donc on n'imagine pas forcément continuer à combler le lac. Il y a assez d'espace, de situations qu'on peut utiliser, y compris pour construire l'habitat, loin des rives ou retrait des rives.
Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de bouleversement à attendre. On l'a échappé belle dans les années 70 avec l'autoroute qui finalement a été enterrée. Mais là, il n'y a pas de grands projets ou de grosses demandes qui risquent de défigurer ces rives.
Ah, je ne pense pas. Vous avez raison de rappeler que dans les années 80, il y a des gens des citoyens qui se sont opposés à la traversée de Neuchâtel par l'autoroute. Imaginez maintenant l'autoroute sur les Jeunes Rives ou sur l'avenue du 1er mars. Et finalement, on a eu les tunnels qui permettent de régler ce genre de problème. On a aussi maintenant à Serrières le tunnel qui a été fait avec la traversée par-dessus l'autoroute pour rejoindre le lac. Donc, il y a une sensibilité telle qu'on ne va plus faire de projets qui défigurent une ville. En tout cas, on l'espère.
Olivier Neuhaus, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Place Publique. On retient que le projet Ring, donc, qui est ce parc urbain au bord du lac de Neuchâtel, au lieu dit des Jeunes Rives, est en route, est en marche. Et que les premiers coups de pioche, du coup, on les attend du côté de 2019.
Je n'ai pas parlé des premiers coups de pioche, j'ai parlé du vote du crédit de réalisation en 2019.
C'est des coups de pioche financiers.
Voilà, c'est peut-être le principal.
Très bien, Olivier Neuhaus, on retient tout ça et on vous souhaite bien sûr une excellente soirée et un très bon week-end. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Place publique.
Elle a 5 ans et elle est déjà très populaire. Plus de 50 000 personnes l'écoutent tous les jours en moyenne en Suisse romande. La radio Griffe a su s'imposer dans le paysage médiatique. La recette du succès, c'est bien sûr un ton différent, mais aussi et surtout une programmation musicale omniprésente. Oui, omniprésente, car elle représente 90% de tout ce qui est diffusé. Et on doit les choix musicaux à Fabrice Sebi, un trentenaire passionné et rigoureux. Nous lui avons proposé de nous raconter Griffe en 5 morceaux. Voici son choix. Call me on the phone.
C'est rêche, c'est rigueux. Fuck It You Win de Aniel Katib. C'est le premier morceau qu'on a diffusé sur Griffe lorsqu'on a lancé la radio en 2012. Et c'est vrai qu'en réécoutant ce morceau aujourd'hui, je me rends compte à quel point il est violent, il est brutal, il est... Ouais, c'est pas quelqu'un qui sonne à la porte et qui attend qu'on lui ouvre. On défonce ta porte, on entre avec les bottes pleines de boue. C'est le premier morceau qu'on a diffusé. Je pense qu'il reflétait notre état d'esprit. On était impatients, on voulait commencer, on voulait que ça aille vite, que ça aille fort. Griffe a commencé en 2012, mais ça faisait déjà 5 ans que c'était une idée qui était là, qui avait été lancée par l'Ofcom. Il y avait eu toutes des affaires compliquées pour mettre en place au niveau technique, au niveau juridique. Et ça faisait 5 ans qu'on trépignait, quoi. On avait envie de démarrer, on avait envie de démarrer cette radio. Et Aniel Katib avait sorti son premier album l'année passée, en 2011. Il nous avait beaucoup plu, et ce morceau, je crois qu'il correspondait à un état d'esprit. Up de Curtis Mayfield, un classique sorti au début des années 70. C'était sur son premier album. Et là aussi, ça reflète une part de la programmation musicale de Griff, à savoir la musique soul, qui a une place importante dans notre playlist. Et j'adore ce morceau. Enfin voilà, c'est un classique, c'est un morceau absolument énorme. C'est impossible d'être de mauvaise humeur en écoutant ce morceau. Et ce que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est que c'est un morceau populaire, mais exigeant. Je parle souvent de musique populaire exigeante pour Griff. C'est une formulation que peu de gens... les gens ne comprennent pas trop. Même à l'intérieur, à Griff, les gens me regardent quand je leur parle de musique populaire exigeante. Ils disent « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» et tout. Et là, je trouve que c'est un morceau que tout le monde connaît, qu'on a entendu au moins une fois dans sa vie, qu'on arrive chanter, qu'on arrive siffler, on l'a facilement en tête. Mais en même temps, il y a une exigence en matière de production, de composition, d'écriture aussi, parce que là, Curtis Mayfield parle de... Alors, je ne sais pas si c'est sur ce morceau spécifique, mais dans son album, il parle de problèmes de société, de problèmes politiques. C'est un album engagé, une musique... importante et aujourd'hui qu'on écoute encore avec plaisir, qui n'a pas du tout vieilli. Les jeunes générations écoutent ce morceau, ça passe très très bien.
9 morceaux sur 10 ne passent que sur Griff, on peut le dire, dans le paysage radiophonique roman. C'est-à-dire que ces 9 morceaux présentent une forme d'exigence. Ça doit être très compliqué de remplir la playlist.
Mais non, en fait, c'est très simple. J'écoute beaucoup de morceaux, entre 2 et 300 morceaux par semaine. Et après, je vais sélectionner entre 5 et 10 morceaux. Donc, je vais vraiment prendre la crème de la crème. Donc c'est facile, mais ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande à être aussi rigoureux quand on choisit les morceaux. Mais en fait non, c'est facile, et au plus aujourd'hui avec Internet, la musique circule de manière tellement facile, tellement rapide, qu'on a juste qu'à faire nos courses. Donc voilà, moi je me promène, je vais sur Internet, je vais sur des sites, je vais sur des blogs, je regarde pas tellement l'actualité des maisons de disques, en fait. Je regarde pas tellement non plus le classement des titres les plus joués en radio, les titres les plus vendus, mais je me balade. J'ai la chair de poule en écoutant ce morceau, In Your Eyes, de Bad Bad Not Good, avec Charlotte Day Wilson. On est aussi dans un répertoire très jazz avec Bad Bad Not Good, qui est vraiment une formation jazz, et qui montre que le jazz se porte bien, qui montre que le jazz, c'est plus une musique de vieux cons. Moi, c'était le sentiment que j'avais quand j'étais adolescent. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont très ouvertes sur le jazz, il n'y a pas de problème. Et voilà, Bad Bad Not Good, c'est une formation canadienne qui fait des choses incroyables. Et là, ce morceau en particulier est complètement fou. À première écoute, on n'a pas le sentiment d'avoir là un tube ou d'avoir quelque chose d'incroyable. Mais plus on l'écoute et plus ce morceau gagne en profondeur, plus on l'apprécie, plus on l'apprécie à sa juste valeur. C'est l'un des morceaux qu'on a le plus joué l'année passée sur Griff. Et voilà, ça, il a énormément tourné.
Another voice in mind, another voice inside, speaking words to me, making sound for my ear.
Voices de Blundetto. Avant de faire la programmation de Griff, j'aimais pas le reggae, tout simplement. Voilà. C'était un genre qui ne me parlait pas, que je ne comprenais pas. Et en préparant la programmation de Griff, on a eu envie de choisir plusieurs genres musicaux différents, dont le reggae. Et il a fallu s'intéresser, écouter, explorer. Et je suis tombé sur ce morceau de Blundetto, qui est un artiste incroyable. Et voilà, et ce morceau m'a fait aimer le reggae. Ce morceau, c'est l'un de mes morceaux préférés. Et c'est d'une simplicité incroyable, ce morceau, il n'y a rien. C'est la beauté du morceau, c'est qu'il est, il est très simple.
Est-ce que la programmation musicale de Griff, c'est ce que vous aimez, Fabrice Abi? Est-ce que c'est le reflet de vos goûts qu'il s'élargisse ou non?
Non, c'est l'inverse. La programmation de Griff m'a ouvert sur d'autres genres musicaux et mes goûts sont en train de changer par ce que je programme. Donc moi, à la base, je suis très intéressé par tout ce qui est musique électronique, notamment l'Italo Disco, qui est un registre un peu obscur, voilà, qui est des années 80, qui n'a pas sur Griff parce qu'elle n'a pas sa place. Donc non, mes goûts, je les mets de côté. On réfléchit, là, il y a une vraie stratégie en termes de programmation musicale. Il y a des règles de programmation, donc les goûts du programmateur, ils vont influencer. C'est impossible d'être objectif, puis même finalement, ce n'est pas très intéressant d'être complètement objectif. Donc il y a une part de subjectivité, mais il y a quand même une grosse part d'objectivité où on a une cible qui était définie avec la direction, un objectif aussi qui était défini, un cadre, on respecte, on est dans ce cadre, et puis on évolue dans ce cadre-là. Donc ça, c'est très important. Et puis des règles de programmation, avec un logiciel de programmation, où là, c'est très mathématique, c'est très carré, où on va demander à la machine d'enchaîner tel titre avec tel autre, de ne surtout pas faire certaines opérations. Donc voilà, là, il y a un côté très programmation, justement.
I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state.
De Breakbot, artiste français qui a sorti deux albums et qui est toujours dans cette musique teintée de disco, teintée d'électro. Là aussi une musique joyeuse mais exigeante. Et voilà, c'est aussi un artiste qui représente la French Touch, qui a aussi une place importante dans la programmation de Griff. Et puis c'est un artiste qu'on aime beaucoup. On est d'ailleurs très fiers de pouvoir l'accueillir à la Casa Choc le samedi 6 mai pour les 50 Griff.
Quelle place ont les auditeurs dans le choix de la musique? Est-ce que des suggestions vous sont faites? Est-ce que vous ouvrez la playlist au choix des auditeurs?
Ah oui, nous on est très, très demandeurs de ça. D'ailleurs, en 5 ans, on a beaucoup amélioré la programmation Griff avec le retour des auditeurs qui ont directement influencé sur les stratégies, sur les règles de programmation. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais oui, on tient compte des auditeurs et on ouvre. D'ailleurs, ben oui, vous pouvez faire vos suggestions à programmation@griff.ch. On est très demandeur de ça et on a la chance d'avoir des auditeurs qui sont très curieux en matière de musique, donc qui partagent très volontiers ce qu'ils découvrent.
Place publique.
Et c'est tout pour Place publique. On remercie bien sûr nos invités. Il y avait Sylvia Steitler, directrice des finances et conseillère municipale de Bienne, qui nous parlait du projet Texas. Il y avait aussi Olivier Neuhaus, qui nous a parlé des rives du lac de Neuchâtel et de leur aménagement futur et passé. Et Fabrice Ebic, vous venez d'entendre le programmateur de Griff qui fête ses 5 ans avec notamment une soirée prévue à la Casa Choc samedi prochain, à ne pas manquer à tout prix. Rendez-vous sur le site internet de Griff d'ailleurs pour avoir voir tous les détails. Place publique, donc, c'est terminé. Merci à Yves Londoneau et Marion Brisbard pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission sur nos applications ou sur nos sites internet rjb-rtn-rfj.ch. La semaine prochaine, on vous propose un débat spécial consacré à la stratégie énergétique 2050 et donc à l'abandon progressif du nucléaire. C'est en votation le 21 mai prochain, avec pour invité le conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridé, Marie Etter, secrétaire régionale du VVF jurassien, Raymond Clotu, conseiller national neuchâtelois, et Michel Fior de Paysages Libres. Voilà, à ne pas manquer, vendredi prochain, 18h20, place publique. Excellente soirée à tous. Place publique.